Bonsoir. Ben, comme je le disais, ce soir tout le monde est québécois. Pourquoi? Tout simplement parce que le Pen Club français a le plaisir de travailler depuis plusieurs années déjà avec le Centre québécois du Pen international. Et plus précisément, le comité des femmes du Pen Club français travaille avec le comité des femmes du Centre québécois du Pen international pour organiser une rencontre annuelle, soit des lectures, soit des débats comme cette année. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Louise Dupré et Diane Régimbal. Nous avons, pour vous dire toute la vérité, profité de leur passage à Paris pour le marché de la poésie afin de pouvoir organiser pour une fois une rencontre en présentiel, parce que d'habitude, par la force des choses, n'est-ce pas, distance oblige, nous faisons appel au Zoom. Et les voilà, les voici toutes les deux ce soir à nos côtés. Je vais commencer par présenter brièvement leur parcours et ensuite je leur donnerai bien sûr la parole. Poète, romancière, mais aussi dramaturge et essayiste, Louise Dupré, qui a, comme vous le constatez, beaucoup de casquettes, a publié près d'une trentaine de titres qui lui ont valu de nombreux prix. Je vais en citer quelques-uns, le Grand Prix québécois du Festival de la Poésie de Trois-Rivières, qui lui a été décerné à deux reprises, en 1993 et en 2011, le prix du Gouverneur général du Canada en 2011 et en 2017, et en 2018, le prix Vénus Kourigata, cette fois-ci à Paris. Parmi ses livres les plus récents, mentionnons le roman Théo à jamais, et le recueil de poèmes « Exercice de joie » qui a été publié autant par le Norrois que par les éditions Bruno Doucet, comme vous pouvez le voir. Ces textes ont été traduits en une quinzaine de langues et elle a collaboré avec des artistes de différentes disciplines. Son recueil de poèmes « Plus haut que les flammes » a d'ailleurs fait l'objet d'un long métrage réalisé par Monique Leblanc et produit par l'Office national du film du Canada en 2020. Louise Dupré est membre de l'Académie des lettres du Québec, de l'Ordre du Canada, du Parlement des écrivaines francophones et bien entendu du Comité des femmes du Centre québécois du Pen international. Diane Régimbald est poète et elle vit à Montréal. Elle a publié plus d'une douzaine de livres, dont 8 recueils de poèmes aux éditions du Norrois, notamment « Elle voudrait l'ailleurs encore » en 2024, « Au plus clair de la lumière » en 2021, « Sur le rêve noir » en 2016, « L'encensé rayon » en 2012, une coédition en fait avec l'Arbre à Parole, la maison d'édition que vous connaissez toutes et tous en Belgique, finaliste au prix de poésie du gouverneur général du Canada. En France, elle a également 4 recueils, à l'atelier des Noyers, Échographie, c'est son livre le plus récent en France en 2023, finaliste à la sélection définitive du prix Mallarmé. On verra bien les résultats dans 2-3 jours. Voilà, donc nous croisons les doigts pour Diane. Cœur d'orange en 2020, mais aussi aux éditions Petit Flou, Toi au soleil et brûlant en 2021 et en 2018, De mer encore. Diane Régimbald a participé à plusieurs projets collectifs, anthologies et événements littéraires au Québec et dans le monde. Certains de ses textes ont été traduits en anglais, en allemand, en catalan et espagnol. Elle aussi est membre du Parlement des écrivaines francophones, du Comité des femmes, ça s'entend, hein, du Pen Québec, voilà, et en même temps de l'Académie des lettres du Québec. Grâce à une proposition qui a été formulée par Diane, nous avons pensé à aborder un sujet assez inédit, je pense, à savoir les relations très complexes qui se nouent entre la poésie et ce qu'elle appelle l'écriture essayistique. Et plus précisément, nous nous sommes dit que nous pourrions essayer d'approfondir ces relations, les interroger, voir comment elles se répondent, quelles sont les mises en perspective, qu'elles permettent, parfois peut-être des contrastes aussi, parce que les approches sont quand même assez différentes. Donc d'approfondir toutes ces questions à travers une trilogie publiée par Louise Dupré, trilogie que vous pouvez voir ici en version québécoise, pour ainsi dire, et ici en version française. Voilà, ça commence avec « Plus haut que les flammes »,« La main hantée » et le recueil que j'ai déjà cité, le recueil le plus récent, « Exercice de joie ». Et je vous encourage, bien sûr, toutes et tous, à visiter le marché de la poésie afin d'acquérir autant les recueils de Louise que, bien sûr, les recueils de Diane. Donc, n'hésitez surtout pas. Et là, je vais passer la parole à Diane qui nous a préparé, je vois, de très, très belles choses.
Alors, bonsoir à toutes et tous. Je remercie avant tout le Pen Club français de nous recevoir, Louise et moi, nous qui sommes membres évidemment du comité femmes du Pen Québec, je vais le synthétiser, et particulièrement Linda Maria Barros avec qui j'ai le plaisir de collaborer justement depuis quelques années pour différentes lectures et jusqu'à maintenant on a toujours eu énormément de plaisir à travailler ensemble. Et puis, en fait, je vais partir d'un petit exergue qui m'est venu pour parler des enjeux de l'écriture. Toute pensée émet un coup de dé. Ce dernier vers du poème de Mallarmé, « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard », me semble ouvrir au poème et à l'essai, puisque l'essai ouvre aussi à cette tentative de réfléchir les enjeux de l'écriture. Et c'est ce dont nous allons parler ici ce soir avec Louise. Donc, ma chère Louise, je suis honorée.
C'est moi qui suis honorée d'être ici.
Donc, ton triptyque, Plus haut que les flammes, La main hantée, Exercice de joie sur les possibilités du poétique face à l'horreur et à la détresse, permet d'entrer dans le sensible et la tendresse, malgré les douleurs humaines, et ce, dès plus haut que les flammes. Il y a une posture d'espérance malgré tout, c'est ta posture, et cette posture nécessite un travail considérable et continu face à toutes les violences humaines qui n'ont de cesse de se perpétuer. Peux-tu nous parler plus largement de ce projet dans son ensemble avant que nous passion au travers chacun de tes ouvrages?
Alors, peut-être prendre 2 minutes pour remercier le PEN français et le Centre québécois du PEN et Linda et Diane qui ont pensé à moi. Comme je disais, c'est vraiment un honneur et un bonheur pour moi d'être avec vous ce soir. Alors oui, c'est une trilogie. C'est devenu une trilogie parce que je ne l'ai pas pensé de cette façon-là au début. Au début, j'ai pensé écrire un recueil, Plus haut que les flammes. Et le premier recueil a posé une question qui m'a conduite, je ne la dirai pas tout de suite, on va voir peut-être l'évolution dans le cours de la soirée, qui a introduit ou qui m'a fait commencer La main hantée, et La main hantée m'a conduite à Exercice de joie. Donc, c'est un processus sur 12 ans, finalement, parce que au Québec, Plus haut que les flammes a été publié en 2010 et Exercice de joie a été publié en 2022. Alors, donc, c'est tout un cheminement qui s'est fait un cheminement qui, de réflexion, mais qui part d'une question dont tu parlais, Diane, tout à l'heure, et qui vient d'un recueil précédent qui s'intitule « Une écharde sous ton ongle ». Dans un poème, je pose la question « Que fais-tu de ta douleur? » Et la question, pour moi, est capitale parce que on a toutes et tous une douleur, on est sensible à la douleur, on est parfois traversé par la douleur, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire de cette douleur-là? Et c'est là, je pense, que on doit avoir une posture qui tient de l'éthique. Comment peut-on agir et non pas seulement réagir à la douleur, mais agir avec la douleur? Alors donc, et cette douleur-là, à l'instant où on se pose cette question-là, qu'est-ce que je veux faire de ma douleur, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je peux la traiter, est-ce que j'en fais une amie ou une ennemie? Est-ce que cette douleur-là va m'empêcher de vivre ou si elle va m'accompagner? Est-ce que je peux faire quelque chose pour la douleur de l'autre? Alors, je me suis posé toutes ces questions-là pendant les 12 dernières années. Alors voilà, donc peut-être que je peux commencer à parler de plus haut que les flammes. Si
mais en fait, ce que j'aimerais avant que tu ailles là, c'est que comme il s'agissait de réfléchir aux enjeux essayistiques, ce que j'ai appelé les enjeux essayistiques dans la poésie, avant qu'on aborde plus haut que les flammes, j'aimerais ça que tu nous dises justement à partir de cette réflexion sur la douleur, comment la poésie a sa part dans les enjeux de l'essai. Puis comment, en somme, le ravit-elle, l'influence-t-elle? Comment ça se traduit dans ton triptyque? Tu viens de parler de cette douleur qui a traversé pendant 12 ans. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui est intéressant dans cette trilogie-là, c'est que vraiment, il y a toute une réflexion qui est vraiment très profonde sur l'extrême violence du monde. Mais, et tu arrives avec toute ces inquiétudes à traverser à ce que tu appelles la leçon de la lumière, tu sais. Et ça, j'aimerais juste que tu puisses aborder ça un peu, puis après, on ira livre après livre, si tu veux bien.
Tout à fait, d'accord. Ben, en fait, récemment, je regardais un documentaire sur Rodin. Et je ne savais pas que avant de nommer le penseur de Rodin le penseur, il avait nommé le poète. Alors ça m'a beaucoup surprise et en même temps, puisqu'on travaillait à cet exercice-là, je me suis dit non, ça ne me surprend pas tant que ça. Alors, parce que je pense que entre la poésie et la réflexion, il y a quelque chose d'intimement lié. Et j'ai même un ami philosophe au Québec, dont le nom est Robert Hébert, qui dit qu'au Québec, la philosophie s'est faite par le biais de la poésie. Ça a été plus long avant qu'on ait des intellectuels qui pensent la philosophie. Mais les poètes déjà pensaient le monde et la poésie était la façon d'aborder les questions du monde. Alors, entre la poésie et l'essai, je pense que c'est il y a vraiment une intimité. Et cela d'autant plus que je viens de la poésie des années 70, bon, que Denise et Diane connaissent bien aussi, de femmes entre autres comme Nicole Brossard, Madeleine Gagnon, France Théoret. Je viens aussi d'une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Lejeune, qui était à la fois poète et philosophe, une poète belge extraordinaire. Et chez elle, poésie et essai sont intimement liés.
Tout à fait.
Et même qu'au Québec, surtout dans la poésie des femmes, il y a eu une sorte d'hybridation et de déconstruction des genres littéraires qui a fait en sorte que, par la poésie, on faisait aussi de la théorie. Alors, c'est tout un mouvement qui était assez près de tel quel. Alors, en France, où on travaillait sur le poème, mais dans une perspective théorique, on l'a fait à notre façon, Colette, mais quand même, il y avait toute une réflexion qui se faisait dans ce sens-là. Comment réfléchir à la poésie? Comment penser la poésie? Comment réfléchir au monde? Comment réfléchir au féminin? Mm-hmm. Alors, tout ça a fait partie intrinsèque de notre poésie et de son développement. Alors, donc, c'est pas étonnant pour moi, parce que si on lit Madeleine Gagnon,
tout à fait,
on se rend compte que Madeleine Gagnon est une femme qui a beaucoup, beaucoup réfléchi par le biais de la poésie. Nicole Brossard aussi, mmh. France Théoret aussi.
Et qui ont joué avec la langue pour oui. vraiment lui donner des formes
exactement.
Fait hybrides, en fait.
Oui, oui.
Oui. Et donc, quand on arrive à Plus haut que les flammes, tu m'avais mentionné, lorsqu'on s'est rencontrés quelques fois pour préparer cette rencontre, tu me disais que tu étais invitée dans un projet de recherche à participer à Une voix de la douleur et que tu avais une incapacité d'écrire un essai sur la douleur. Je ne sais pas si tu veux nous raconter un peu, parce que je trouve ça assez intéressant, comment justement tu y es arrivée.
Ben, en fait, c'est que nous, au Québec, c'est peut-être la même chose en France. Au Québec, les professeurs à l'université ont des projets de recherche. Et on demande des subventions pour des projets de recherche qui permettent de faire travailler les étudiants aussi. Alors, on travaille avec les étudiants et nous, mes collègues et moi, avec quatre autres collègues, Denise Brassard, René Lapierre, qui sont poètes, Paul Chamberlain et André Carpentier, on avait fait un projet de recherche sur la voix. Et à l'époque, ce qu'on voulait faire, c'est faire des essais, évidemment des articles universitaires, de la réflexion, c'est dans le cadre de la création littéraire et de la réflexion sur la voix de l'écrivain. Alors moi, j'avais choisi la voix de la douleur.
V-O-I-X, oui.
Pardon?
V-O-I-X.
Oui. Oui.
Excusez-moi.
Alors, non, mais c'est une question importante.
Oui.
Alors, j'avais choisi de travailler sur une voie de la douleur. Et donc, je me suis retrouvée à Brno, en République tchèque. Denise était là, d'ailleurs. Il y avait eu un grand festival de non seulement de poésie, mais de littérature. Et ça m'avait beaucoup intéressée de savoir que Cracovie n'était pas très loin. Alors évidemment, Cracovie, c'est Auschwitz et Birkenau. Je me suis dit, je suis à 3 heures d'Auschwitz et Birkenau. Je travaille sur la douleur. Je veux aller à Auschwitz et Birkenau. Et j'ai pris le train. Pour nous, c'est l'équivalent de Montréal-Québec, mm-hmm. 3 heures, et c'était pas très loin. Donc, je suis allée visiter les camps. Bon, évidemment, visiter les camps, je trouve que c'est pas le mot adéquat. On fait pas une visite, on est totalement pris. Je m'étais préparée, je savais que je plongeais dans la douleur, Mais je savais ce que je trouverais là, je savais ce que je verrais, mais j'étais absolument submergée par ma propre douleur quand j'ai vu une petite vitrine dans laquelle étaient conservés des vêtements de bébés qui avaient été exterminés. Des vêtements d'enfants de un an et demi à peu près, et un biberon cassé. Et mon petit-fils avait cet âge-là, à l'époque. Et le choc que ça m'a fait a été terrible. Vraiment, vraiment terrible. Et je n'ai plus été capable d'écrire pendant un an. Rien du tout. Pas d'essais, pas de poèmes, absolument rien.
Ouais.
Je donnais mes cours, je faisais ce qu'il fallait, mais aucun mot ne venait, aucun mot valable, disons.
Une forme de dépression d'écriture.
Oui, une incapacité d'écrire. Et viens t'asseoir, on continuera après. Viens t'asseoir, Madeleine.
Pardon.
Alors donc, on parlait de « Plus haut que les flammes », comment le livre m'était venu. C'est après un voyage à Auschwitz et Birkenau, où j'ai découvert une vitrine dans laquelle il y avait des vêtements d'enfants qui avaient été exterminés. Et ça m'avait plongée dans un état terrible, un état de... Je ne parlerai même pas de douleur, un état de dépression.
Mm-hmm, mm-hmm.
Parce que je disais que mon petit-fils avait l'âge de ces enfants-là, et c'est comme si toute la douleur du monde, je l'avais recueillie. Elle était tombée sur moi. Et après un an, j'ai commencé à écrire plus haut que les flammes, très, très, très doucement, mais à griffonner des mots. Et peu à peu, les mots sont revenus, parce que je me suis dit, si je n'écris pas là-dessus, je n'écrirai plus jamais. C'est terminé.
C'est très bouleversant.
Donc, oui, et ce ne sont pas les mots de l'essai qui sont venus, ce sont les mots du poème.
Mm-hmm.
C'est le poème. Je pense que face aux grandes douleurs, aux dépressions, ce n'est pas l'essai qui nous vient. On n'est pas capable de mettre ses idées en ordre. Mais le poème permet, le poème a quelque chose de sauvage qu'il faut ensuite travailler mm-hmm. pour qu'il ait une forme, évidemment. On n'écrit pas n'importe quoi. Mais le poème rejoint les affects au plus profond de soi et permet justement une expression. Et c'est comme ça, c'est en écrivant ce livre-là que j'ai pu sortir de cette dépression-là.
Parce que ce livre, en fait, est aussi de l'ordre d'une transmission, parce que qu'est-ce que tu dis à cet enfant de la douleur? Il est là, l'enfant, dans ton livre. Mais il traverse la trilogie, mais il est là, cet enfant. Est-ce que tu aurais envie de nous en lire un extrait? Ou tu veux continuer d'en parler?
Peut-être simplement, si vous ne l'avez pas lu, dire qu'il s'agit d'une femme dans ce livre-là qui... c'est une femme qui parle, en tout cas, qui a un enfant dans sa vie, et elle s'occupe de l'enfant.
Mm-hmm.
Elle s'occupe de l'enfant. Donc, il y a presque une trame narrative, d'une certaine façon, et c'est pour ça qu'on a pu en faire un film.
Exactement. Bon.
Alors, c'est une femme, une grand-mère, qui s'occupe d'un enfant et qui se demande ce qu'on peut dire à cet enfant-là de la douleur du monde, et est-ce qu'on peut lui parler d'Auschwitz et Birkenau? Est-ce qu'on peut dire ça à un enfant? Et est-ce qu'on peut lui expliquer dans quel monde il a été élu? Alors, c'est toute la question que je pose dans ce recueil-là, ce recueil-là qui est un cri d'amour pour les enfants, pour cet enfant-là, mais tous les enfants, et qui est aussi une main tendue à l'enfant, mais on va voir que c'est l'enfant qui ressuscite la grand-mère.
C'est l'enfant qui la console.
L'enfant la console, l'enfant veut vivre, l'enfant ouais. veut danser, l'enfant veut chanter, mmh. l'enfant veut être là.
Il veut être en vie. Elle,
l'enfant veut être en vie. Et là, donc, je pense que je peux lire, j'avais choisi de lire la fin
D'accord.
du recueil. Alors, je vais faire une petite
Il veut que sa grand-mère soit en vie aussi.
Oui, il veut que sa grand-mère soit en vie parce qu'il veut vivre, lui. Alors, l'exergue de la dernière partie, c'est en quatre parties. Alors, l'exergue de la dernière partie est le suivant. C'est un exergue de Philippe Jacotet que j'aime beaucoup. « Jusqu'au bout, dénoué, même avec des mains nouées. » Et tu veux apprendre à danser sur la corde calcinée des mots. Te voici pur vouloir, pur dessein, détermination violente, lancée comme une flèche ou un amour trop vaste pour toi. Te voici prête à danser par-delà ta peur, aveugle et sourde au craquement de tous les ciels qui se sont cassés depuis que tu sais lire. Je saute un passage. Malgré ton cœur tropical, tu as encore assez de rythme pour faire valser l'enfant au centre du cyclone. Car ici, le temps est bleu et nuit avec étoiles. Et tu veux voir haut, plus haut que le mur de ton œil. Tu veux voir là où les visages ressemblent encore à des visages et les villes à des phrases qui ne périssent plus entre les lèvres. Il y a bien une syntaxe pour parler doux. Au fin fond de ton souffle blessé ou devant les pierres tombales, quand le sol devient si friable que les morts se mettent à remuer dans leur voix. Tu peux alors entendre se détacher la plainte du monde comme une physique de la douleur, une science à comprendre avant tes dernières images. Malgré ton cœur tropical, tu n'es pas trop vieille pour la leçon des vents qui t'encerclent. Ils t'encerclent, mais tu danses, avec l'enfant et l'espoir fou de répondre au murmure de la terre. La terre n'attend pas le repentir ni la prière. Elle veut retrouver le cycle des semailles et des moissons, et l'eau humble jetée sur le printemps, et les onctions en spirale sur la tête des nouveau-nés. Même tremblant, un geste ressuscite parfois la chair des mots étouffé sous la poussière, comme un testament de l'ombre que tu graverais dans ta propre chair. La mémoire des morts cherche une demeure. Elle te demande à boire et à danser, et tu la fais valser avec l'enfant, enivré par la joie de ses cercles que tu veux agrandir jusqu'à ébranler les parois indestructibles de ta peur. Peu importe la possible vengeance des vents ou des volcans, peu importe ta fatigue, dans tes bras, il y a l'enfant qui te regarde, et même sans bravoure, tu deviens une femme de courage, une femme de fenêtres ouvertes, capable de déborder le jour. Tes os sont plus solides que tu ne crois. Ils ne te trahissent pas encore. Et tu ne trahiras pas le monde minuscule accroché à ton cou comme un mystère qui t'implore en riant de continuer à danser.
C'est magnifique. Alors, voilà. C'est toujours magnifique. À chaque fois que je t'entends le lire, vraiment. Merci beaucoup. Et là, le passage se fait à la main hantée, où là, il s'est passé quelque chose pour que tu passes d'un désastre collectif qui t'a complètement happé et qui t'a amené quand même à te dire qu'il fallait garder un espoir pour l'enfant, à une posture qui est inquiétante, puisque c'est de mettre fin à la vie d'un chat, d'une bête, et que le fait de faire cesser la vie de cet animal, tu te rends compte de ce pouvoir-là, que c'est de pouvoir faire ce geste-là, qui, à prime abord, nous paraît banal puisqu'il est autorisé, il est légal, mais toi, tu le renverses et tu continues cette responsabilité humaine avec ce geste, et tu entres dans ce mouvement-là avec cette main hantée. Nous sommes des gauchères, je présente ma main gauche. Et j'aimerais que tu nous parles justement comment le bien du mal, tu sais, de vouloir soulager la bête de cette douleur-là, mais ta main devient hantée puisqu'elle devient responsable de la fin de vie. Et tu vas profondément donc dans cette honte qui vient habiter justement tout ce texte-là. Et tu questionnes nos responsabilités individuelles et collectives à travers tout ça. Donc je te laisse nous en parler si tu veux bien.
Ben, à la fin de Plus haut que les flammes, m'est venue une question, enfin, mais qui était là, mais qui est devenue de plus en plus lancinante. C'est qui suis-je, moi? Parce que on a, en tout cas nous en Amérique, on nous présente beaucoup et chez nos voisins américains, le bien et le mal, l'axe du bien, l'axe du mal de M. Bush. Madeleine qui vit à New York est familière avec cette vision-là. Et bon, il y a les bons et les méchants. Et je m'étais dit, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été allemande durant la Deuxième Guerre? Est-ce que je suis sûre que j'aurais empêché le désastre? Est-ce que j'aurais bien agi? On ne peut pas savoir. Hein? Personne ne peut savoir. Mm-hmm. Et quand j'ai commencé la main hantée, c'était avec cette pensée-là et est arrivée, comme dans Plus haut que les flammes, cette visite-là à Auschwitz-Birkenau. Un autre fait de ma vie, c'est-à-dire que j'ai été obligée de faire euthanasier ma vieille chatte, qui était très malade. Et ça m'a bouleversée totalement. Et le premier texte est là-dessus. On n'a pas l'habitude de parler des chats qu'on euthanasie ou qu'on fait euthanasier dans des livres de poésie. Mais je pars de là pour dire, ben moi aussi je peux tuer, c'est finalement facile de tuer. C'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a tué une fois, on peut tuer d'autres fois et on s'habitue vite à la mort. Et j'ai voulu questionner ma responsabilité, mais la responsabilité de chaque être humain. Mm-hmm. Et déconstruire toute la notion de bien et de mal, et de voir qu'on est tissé de bon côté, de mauvais côté, d'Eros et de Thanatos, et qu'on doit vivre avec ces deux tendances-là, qu'on n'a pas le choix. Et tout ce recueil-là est construit à partir de ça. Mais la main hantée, c'est aussi la main hantée par l'histoire. La main hantée par l'histoire depuis la préhistoire, et même avant, depuis les animaux. On vient des animaux, on vient des primates, qui est une espèce extrêmement agressive. Alors, et on conserve des traits de nos ancêtres lointains.
Puis tu dis, qu'as-tu fait depuis des siècles et des siècles?
Exactement. Hein, exactement. Mm-hmm. Donc, je remonte même jusqu'au rat.
Oui, c'est ça.
Alors, on n'est pas... On ne peut pas... Je ne mets pas les êtres humains au-dessus des autres espèces, mais j'essaie de montrer ce qu'il y a d'animal chez l'être humain. Et je pose la question, comment se réconcilier avec ces aspects-là sombres de l'être humain? Comment peut-on se réconcilier avec soi-même? Et comment peut-on en arriver à aller vers l'autre, à tendre la main? Et
je voulais juste dire, et il y a aussi dans cette main hantée, dans ta partie 2, tu penses à tous ces suicidés qui ont écrit, et tu en nommes vraiment plusieurs, et ça c'est assez... Donc tu fais le passage de pouvoir mettre fin à la vie d'une bête à tous ces êtres-là qui se suicident. Je pense pas qu'un animal se suicide. Il va se laisser, tu en parles même, il va se laisser aller jusqu'à la fin. Et là, mais là, tu parles de ces êtres-là qui prennent, décident de mettre fin. Alors, et donc, cette main hantée, elle traverse continuellement ce livre-là.
Oui, mais c'est justement, c'est cette main-là qu'on voit qui peut aller jusqu'à détruire la vie même chez l'individu.
Ouais.
Et je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Parce que si on se concentre sur la douleur du monde, sur la méchanceté, sur la dureté du monde, ben, on finit par mettre sa vie en question.
Ouais.
Et donc... tôt ou tard, il faut se poser la question, est-ce que je veux continuer à vivre? Et pour continuer à vivre, ben, il faut pardonner à l'humanité, il faut se pardonner, parce que sinon, on se suicide. Alors, c'est une question capitale dans ce livre-là, c'est la question du suicide que j'aborde. C'est pas un livre joyeux, c'est un livre très noir. J'essaie de trouver des portes de sortie.
Et tu tentes de quitter la culpabilité. Tu sais, on parlait de ce rapport-là, tu sais, d'avoir une posture laïque et non pas parce que tu sais, on est issu du catholicisme. Alors, donc, quitter ça et tu dis, tu es là. Preuve parfaite que Dieu ne sait pas exister. Donc, ça te permet justement d'aller plus loin dans cette sombre...
Oui, ben c'est ce que...
Ce sombre état de...
C'est la tentative de se recueillir, d'essayer de sortir d'une culpabilité qui est absolument étouffante, qui tient du catholicisme et aussi du protestantisme.
Oui.
Encore parce que les protestants ne connaissent pas la confession. Ils ne peuvent pas se faire pardonner. Et je viens d'une ville, j'ai été élevée dans un milieu qui a été fondé par des protestants, des loyalistes. Je viens de Sherbrooke, une ville à la frontière des États-Unis. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que notre catholicisme était teinté de protestantisme. Et nous, si on péchait, c'était pour la vie et il n'y avait pas moyen d'être pardonné. Donc, c'était très différent. Et dans mon travail, la culpabilité est très, très présente. Et le recueil pose la question, comment sortir d'une culpabilité qui peut être nocive et comment en venir à la laïciser, comme mm-hmm, tu le disais mm-hmm. si bien, mm-hmm. en parlant de responsabilité. Bon, et la personne responsable, ça ouvre quelque chose, ça ouvre une fenêtre et ça permet une éthique de la main tendue à l'autre et une éthique de la main tendue envers soi. Si on veut tendre la main à l'autre, il faut qu'on se la tende à soi. Mm-hmm.
Ça ouvre les questions.
Oui, ah. Exactement, exactement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais peu à peu, parce que ce sont des livres que j'écris doucement, je prends 2 ans, 3 ans, 4 ans, et je chemine par le biais du livre. Donc, j'en viens à... C'est Julia Kristeva qui disait que dans l'écriture, le sujet change, le sujet se défait et se refait. Mm-hmm. Ben, je peux vraiment dire que, personnellement, l'écriture me permet, comme sujet, de me défaire et de me refaire, me reconstruire autrement.
Ouais. Mm-hmm. Puis tu dis aussi quelque chose que je trouve très intéressant. Bon, d'une part, il y a tout le rapport à l'amour, tu sais, comment aimer dans toute cette posture-là de très, très noire, justement, de ce constat-là, de cette conscience-là. Puis tu dis l'histoire est une pandémie. Puis c'est arrivé avant la pandémie quand même, là. Alors je trouve ça quand même très intéressant que tu parles de l'histoire est une pandémie parce que c'est comme s'il y avait une perpétuation, justement.
Alors les deux vers, c'est l'histoire est une pandémie dont le virus ne cesse jamais de muter.
Voilà.
Et bon, ça a été publié en 2016. Et hélas, oui, l'histoire est une pandémie dont le virus ne cesse jamais de muter. Et comment vivre et comment trouver une place? Et comment tu parlais de l'amour? Pour moi, c'est capital dans mon travail. Mm-hmm. D'ailleurs, je m'interroge actuellement beaucoup sur cette question-là, puis peut-être que j'écrirai là-dessus un jour. Je suis pas une personne révoltée par nature. Je suis une personne qui cherche et qui cherche l'amour et à donner et à recevoir de l'amour. Je suis plutôt dans cette mouvance-là. Oui, bien sûr, le monde me révolte, mais c'est pas mon moteur. Mon moteur, c'est plutôt de vivre de l'amour, de transmettre de l'amour mm-hmm. et de faire en sorte que l'amour circule à la place de la haine.
C'est pour ça que je parlais au tout début de tendresse. Il y a une tendresse
exactement.
Malgré tout. Est-ce que tu veux nous lire un petit extrait de La main hantée?
Alors, je peux vous lire quelques petits passages. Ce sera des poèmes en prose cette fois. Alors, l'exergue, ça tombe pile. J'enseigne aux lèvres fermées ce mot étroit comme la mort, amour. Alina Posviastovska, je le prononce peut-être mal, mais c'est une poète polonaise. Tu ne te rappelles pas quand le poème s'est tourné contre toi? T'as secoué comme un édredon trop habitué au sommeil, t'as forcé à ne plus te mentir. Tu t'es mise à psalmodier des airs invisibles à ton oreille, des airs scellés dans les replis de l'enfance. Il t'attendait dans la patience du jour prêt à se lever, il t'attendait. Vieille chair encore attachée à tes os comme une fois sortie tout droit de la boue. Musique de la rue, musique de la lumière voletant dans les feuillages, musique verdoyante de toutes les musiques qui, un instant, a recouvert la plainte de la terre. Tu as vu se découper devant tes yeux l'ombre de la beauté. Toi qui ne reconnaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Il est temps de couper les fils entre tes doigts, d'attirer dans ton jardin les chats errants. Temps de cueillir les pissenlits que tu mangeras bientôt par la racine. Temps d'accorder grâce à l'effroi. Tu es encore humaine, tu aimes encore ce que tu es. Tu crois à ce que tu ne crois plus. Les fantômes bienveillants de minuit et la prière, même souillée comme une robe de viol. La solitude acceptée, la solitude rompue. Tu n'as pas épuisé tes 9 vies, ni les étoiles qui naissent dans tes yeux hagards, ni le futur des verbes simples. Tu trouveras l'audace de te coucher comme une neige nue sur les oripeaux en flammes. Pure patience contre force et rage, levée contre, dressée contre, blanche de peur et d'espoir, tu occuperas le champ de la honte. Et un dernier. La main hantée, on devient une histoire trop lourde pour une femme, une barbarie à fleur de peau. Tu as connu des prédateurs de toutes les époques, et toutes les époques guettent chacun de tes gestes. Tu es une poète aux ongles noirs, et tu le resteras. Tu n'as plus l'âge des concours de beauté, plus l'âge des vers montés en couronne pour la gloire des visages. Ton miroir te renvoie maintenant les rides de ta mère. Vieillir ne t'apporte aucune sérénité, aucune sagesse. Seuls les ravages d'un désert où tes mots ne peuvent rien pour les otages démantelés à coups de sabre comme des monuments millénaires. Et pourtant, tu rêves de poèmes qui réveillent la tendresse des dieux, même s'il faut les appeler prières ou oraisons. Tu es ta propre contradiction.
Merci beaucoup, beaucoup. Et donc, tu viens de le mentionner, tu viens de lire ce qui t'a amené à ces exercices de joie avec toi qui ne connaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Donc, ça a été ton motif, ça a été ton stimuli pour arriver à ces exercices de joie. On s'entend que des exercices, c'est quand même, ça demande un effort, ça ne se fait pas tout seul, ça demande vraiment une volonté. Et tu dis la douceur comme une discipline de combat, le risque de la tendresse, et cette tendresse dont je parlais au tout début et qui revient ici. Donc tu arrives, malgré tout, des douleurs, des atrocités, à garder cette espérance nécessaire pour tenir debout. On dit bien debout, ça c'est fondamental. Alors, je te laisse poursuivre sur tes exercices, à nous les présenter.
J'écris toujours le matin. Et le matin, m'est venue cette phrase-là, « Toi qui ne reconnaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. » Je me suis dit, « Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ?» Bon, si vous êtes poète, ça vous vient peut-être des phrases ou des vers que vous ne comprenez pas. Et puis, je me suis dit, ben tant pis, si j'allais à l'écrire ce matin-là, je le laisse là. Voilà. Et bien, ça a continué à me trotter dans la tête et je me suis interrogée, qu'est-ce que c'est la joie? Et qu'est-ce que c'est, dans mon cas, qu'est-ce que ce serait la joie? Bon, parce que, évidemment, la douleur peut nous faire périr. Si on ne se penche que sur les malheurs du monde, à la limite, on finit par faire un suicide collectif.
Mm-hmm.
Je veux dire, je me suis dit, bon, surtout que je parle beaucoup de la transmission, je parle de mon enfant. Quand on a des enfants, on ne peut pas, et des petits-enfants, on ne peut pas leur transmettre seulement la douleur. Il faut aussi transmettre la force de continuer. Et la force de continuer, ben, ça se fait par dans des mots comme joie, comme beauté, comme bonheur, comme des mots qui donnent envie de vivre. Alors, ce que j'ai voulu faire et ce qui m'est venu, c'est de voir la joie non pas comme un affect, un sentiment, quelque chose qui monte spontanément, mais comment aller chercher la joie dans la vie. J'avoue que c'est pas toujours facile, là. Mais c'est pour ça que je me dis qu'il faut faire des exercices de joie.
Tout à fait.
Et je me suis forcée de faire des exercices de joie pendant toute l'écriture de ce livre-là. Et voilà ce qu'en a résulté. J'ai publié mes exercices de joie comme des exercices
physiques.
Ou comme des exercices de Saint-Ignace de Loyola, comme des exercices de musique, ou comme les exercices de style de Queneau, donc si on faisait des exercices de joie. Mm-hmm. Et c'est très drôle parce que depuis la publication de ce recueil-là, il y a des gens qui me disent, qui me rencontrent en me disant « Ah, je te dis, il faut que je fasse mes exercices de joie ces temps-ci parce que ça manque de soi. » Alors, tous les matins, je commence par mes exercices de joie. Donc, c'est clair que, pour moi, c'est une posture éthique qui nous force à transmettre de l'espoir. De l'espoir.
Oui, à trouver les lueurs d'espoir.
Et du plaisir à vivre aussi, d'aller chercher les moments où on a du plaisir à vivre. Mm-hmm. Des moments où on voit de la beauté, où on voit de la lumière. Tu parlais de la leçon de la lumière.
Oui.
Bon, alors faire ces exercices de joie, c'est justement écouter et voir les leçons de la lumière.
Tout à fait.
Et puis, c'est tout un programme.
Et puis, il y a cette traversée aussi de ton rapport au féminin qui est toujours là partout, dans toute ton œuvre, évidemment, mais aussi dans ce triptyque. Donc, ton rapport au féminin, au maternel, que ce soit à la mère, à la grand-mère, donc depuis cette fille qui devient mère et qui devient grand-mère, le rapport à se prendre soin là de l'enfant qui vient justement aider à pouvoir garder cette lueur d'espoir-là et à faire les exercices aussi, parce que sinon, c'est jamais seul. Il faut toujours qu'il y ait l'autre. Et cet autre-là, qui est notamment l'enfant, est extrêmement important et qui traverse vraiment ton triptyque.
Oui, ben c'est là où on se rejoint aussi.
Ouais.
Diane vient de publier un très beau recueil, elle voulait l'ailleurs encore, où tu parles aussi de cette relation-là entre la fille, la mère, l'enfant, la mère. Et oui, ben j'ai beaucoup écrit sur la relation mère-fille. Du point de vue de la fille, mais du point de vue de la mère aussi, et je continue dans l'exercice de joie à me poser ces questions-là. Plus haut que les flammes vient de ma relation à mon petit-fils. Évidemment, c'est pas moi, c'est pas autobiographique. Là, c'est un jeu poétique, évidemment. Mm-hmm. Mais quand même, on met quelque chose de soi, on met notre propre subjectivité dans nos livres. Et je continue dans Exercice de joie. Et d'ailleurs, j'ai enseigné toute ma vie. L'enseignement, c'est aussi une transmission. C'est qu'on veut donner quelque chose, on veut... et il y a chez moi quelqu'un qui veut transmettre ou qui cherche à transmettre, qui voit la suite de l'histoire. Je parle du début de l'histoire, mais je pense à l'avenir aussi. Je pense à l'avenir. Mm-hmm.
Cette transmission-là est fondamentale.
Oui, pour moi, c'est vraiment fondamental.
Qui a fait cheminer justement la pensée.
Exactement.
Elle l'amène à aller plus loin.
Oui, ouais. C'est quelque chose de très important pour moi.
Tu veux nous lire un extrait de, des oui, exercices de joie?
Des poèmes en vers. Ben, c'est-à-dire que c'est un long poème en vers.
Ce qui est très intéressant dans l'écriture de Louise, c'est qu'elle a vraiment des formes différentes et qui font en sorte que ça crée tout un mouvement. Donc, elle passe de vers à prose dans chacun de ses textes, puis d'une façon très, très structurée. Donc, ça crée un rythme très important.
Alors, ce long poème-là commence par un exergue de Claude Esteban, que j'aime beaucoup. « Mais la terre qui n'attend pas, qui s'accumule sous la langue. » Te voici rendu à l'âge des testaments. Toi qui n'as jamais fréquenté les notaires ni les docteurs de la loi. Tu apprivoises l'éternité des cimetières, même si ton cœur bat encore au rythme du printemps. Mais le poème voit plus loin que toi. Il est ta science intime et tu trembles en écrivant ces vers. Tu as peur et tu l'avoues afin d'éloigner le mauvais œil. Tu vis avec l'urgence d'ouvrir une route praticable pour ceux et celles qui bientôt te pleureront comme tu as pleuré ta mère et sa voix vieillit contre ton tympan. Il suffit parfois d'une phrase de mère pour continuer et tu ne voudrais pas quitter ton petit monde sans une parole capable de résister à la détresse. Malgré l'usure de tes genoux, tu sais encore marcher. Et tu resteras jusqu'au bout une femme de désir, soulevant à chaque pas la beauté endormie sous la poussière. Le désir est un horizon debout. Il reconstruit les villes sur l'odeur sanglante des bombes. Tu l'invoques dans tes vers, pour les enfants sortis de tes entrailles sans l'avoir demandé. Jamais tu ne t'es vu comme l'apôtre d'une foi qui prétend déplacer les montagnes, mais tu veux écrire fragile l'instinct de l'espoir. C'est maintenant ou jamais.
Voilà, tu l'as dit. Ah, ben écoute, je te remercie beaucoup. On aurait encore beaucoup de choses à parler, notamment, bon, t'as nommé ces écrivaines plutôt influencées, mais je pense que, je vais juste aussi mentionner que dans l'édition québécoise, Louise a travaillé depuis plus de 30 ans maintenant avec la même artiste pour toutes ces couvertures de livres. Donc, Colette, je t'ai vu prendre une photo des livres chez Bruno Doucet. Là, c'est sûr qu'il y a mes petits post-it qu'il faudrait que je cache. Mais ça pourrait être intéressant. Non, c'est pas grave. Ça montre que c'est vivant. Alors, mais peut-être que vous auriez donc des questions pour Louise.
C'est Louise Robert qu'elle s'appelle.
Oui, Louise Robert.
Je peux peut-être parler un peu de Louise Robert.
Oui, bien sûr.
Une amie de lui, une amie à toi aussi.
Oui.
Tout qui va contre jour.
Alors, Louise Robert, c'est une artiste avec qui je me sens beaucoup d'affinités. Je me suis toujours sentie des affinités. Et devant mon lit, j'ai un immense tableau d'elle et j'écris toujours devant ce tableau-là. Et c'est comme si les mots de Louise, les mots, oui, parce que il y a souvent des mots dans ses toiles ou dans ses dessins. Et je me sens vraiment
en connexion,
en affinité avec elle. Elle est malheureusement décédée d'un cancer il y a presque 2 ans, hélas. Mais j'ai commencé à travailler avec elle en 1989 pour un essai justement qui s'intitule « Stratégie du vertige » et qui porte sur Nicole Brossard, Madeleine Gagnon et France Théoret. Mm-hmm. Et j'ai plusieurs couvertures de Louise Robert. Le troisième exercice de joie, c'est un tableau absolument magnifique. Je trouve que la couverture ne lui rend pas justice.
La reproduction, non?
Oui, il est beaucoup
plus vive dans la
rue. Oui, il est beaucoup. C'est un tableau où le noir est lumineux. Ah. Et c'est ça que j'aimais, cette lumière-là qui sort du noir est vraiment très belle. Bon, les couleurs sont un peu éteintes. Bon, mais Louise n'a rien dit. Elle était contente d'avoir un de ses tableaux. Et puis, et j'ai une édition chez moi d'exercices de joie qu'on m'a remise après son décès où elle commente les textes. Elle n'a pas eu le temps de se rendre à la fin. Dans ses commentaires, mais c'est extrêmement touchant. C'est une femme que j'aimais beaucoup et qui est une grande artiste visuelle.
Très grande artiste.
Oui. Ouais.
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.
Non, moi, je dirais, pour synthétiser, hein, j'essaye.
Vas-y.
Exercice très compliqué. Mais justement, le mot exercice me semble le plus approprié. Non seulement parce que, forcément, c'est une figure dans le titre du troisième volet de la trilogie, mais en lisant ces livres, je me suis dit, là, il s'agit vraiment d'exercices d'éthique.
Oui, avant tout à chose. Fait. Tout à fait.
Voilà, pour synthétiser. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir quelqu'un qui assume pleinement cette relation très étroite entre des concepts théoriques, le devoir de mémoire, la responsabilité et le devoir du bonheur, je dirais aussi, n'est-ce pas, d'assumer complètement l'interrogation d'un point de vue théorique. Certes, il y a beaucoup d'interrogations, de cheminements en poésie, mais d'habitude, les poètes adoptent une position, on va dire, un tout petit peu plus romantique. Voilà, il y a, je sais pas, l'inspiration, le côté... parfois, il y en a qui disent, en fait, il y a le travail de l'inconscient, mais il y en a très peu qui assument complètement la construction, l'interrogation. Du travail qui est fourni. Bien sûr, une interrogation qui se construit, vous l'avez très bien dit, hein, qui se construit lentement, ce n'est pas, on ne part pas d'un projet théorique qui se présente comme ça, comme un bloc, et ensuite on commence à tailler dans le bloc. Non, le bloc lui-même, de pierre par exemple, se construit lentement. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire d'assumer cette interrogation en tant que telle et d'assigner à la poésie, justement, dans cette perspective essayistique quand même, voilà, n'est-ce pas, d'assigner une mission éthique clairement définie qui se construit petit à petit à travers le vers. Et il y a deux syntagmes qui m'ont vraiment marqué et j'ai été très heureuse de voir que ces deux syntagmes ont été d'ailleurs évoqués. Voilà, dans le plus haut que les flammes, c'est ce testament de l'ombre qui est gravé dans la chair. Oui. Je pense que c'est une magnifique métaphore pour nommer justement le devoir de mémoire. Et là, on voit bien, je pense, comment on peut passer du devoir de mémoire, concept, qu'on utilise justement dans l'essai, pas seulement, mais voilà, comment on passe de l'essai son incarnation, toujours théorique, certes, mais poétique avant toute chose. Et on voit bien la force là, de la poésie, parce que franchement, entre le devoir de mémoire et le testament qui est gravé dans la chair, je pense qu'on sent toutes et tous la différence. Ouais. Et ensuite, c'est ce que tu as dit, voilà, j'avais mis là, j'avais mis un petit, pas de post-it, mais un petit... qui, enfin, en fait, c'est la vie de parution avec l'argumentaire du livre. Voilà justement cette cette douceur qui est, enfin, qui est pratiquée. Bon, j'inverse un tout petit peu les vers comme une discipline de combat. Je me suis dit oui, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, notre véritable devoir, même le devoir de mémoire. Parce que, bon, j'ai longtemps, et en plus là on est Open Club, j'ai longtemps réfléchi à la question du devoir de mémoire, mais en fait, je me suis dit, bah voilà, ça c'est une manière très, très intéressante, plus que novatrice, d'envisager le devoir de mémoire, de le retourner, de le retourner, pour voir l'autre facette, parce que forcément, le devoir de mémoire ne peut pas aller, il ne peut vraiment pas aller sans le devoir du bonheur. Bonheur, c'est pour ça qu'il y a le devoir de mémoire, pour qu'on puisse
continuer.
Mais tout à fait, et continuer debout. Hein?
Continuer debout, déjà, ne plus répéter, parce que voilà, ça, avec la pandémie, c'est tellement, et malheureusement, c'est tellement vrai, tellement actuel, c'est horriblement, je dirais, presque actuel.
Et j'ajouterais à ce que tu dis que dans l'ensemble de l'œuvre de Louise Dupré, c'est cette éthique-là, ce devoir d'éthique est là continuellement.
Oui.
Il y a cette trilogie, mais je veux dire, c'est un continuum pour moi dans tous les livres qu'elle a écrits. Et ça, pour moi, c'est absolument formidable. Et il y a aussi cette subjectivité, tu sais, on en parlait par rapport au pronom. Il y a une posture du pronom ici, et tu disais, le « tu ouvre » permet de sortir de la honte, que si tu étais dans le « je », ça te permettait autre chose. Et là, ça te permet l'engagement. C'est ce que j'avais noté.
Tout à fait. Ben, c'est-à-dire que le « tu » offre une certaine distance.
Voilà.
Enfin, le « tu », c'est un « je ». Qui est mis à distance, on l'emploie beaucoup au Québec. Tu vas faire ça, tu sors, tu fais ton lavage, tu fais une promenade. Bon, en parlant de soi, il offre une sorte de distance avec le jeu qui est très, qui est souverain et qui peut enfermer aussi. Alors que ce que je cherche, justement, c'est une certaine distanciation.
Bah, qui participe, je pense, du projet même.
Oui.
Ça aussi, ça participe, je pense, de cette écriture essayistique.
Oui.
Parce que sans cette distance, réfléchir, approfondir, et ainsi de suite, peut être assez compliqué, hein, je pense. Hein.
Tout à fait. Et si je peux me permettre, simplement parce que j'ai quand même écrit des essais aussi autour de la voix après « Plus haut que les flammes », je suis partie, bon, il y a deux notions, il y a un spécialiste, là, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il est dans une note en bas de page d'un texte. Il fait la différence entre l'empathie et la compassion.
Oui.
L'empathie, c'est le fusionnel. Oui. C'est très dangereux, l'empathie. Et il parlait même d'une femme qui travaillait pour les droits des animaux, qui avait fini par se suicider par empathie, parce qu'elle n'en pouvait plus de voir des animaux maltraités. Alors, à un moment donné, l'empathie est dangereuse, alors que ce qu'il faut et ce que j'essaie de faire, justement, c'est de passer à la compassion qui laisse une distance, c'est-à-dire d'être avec l'autre, de l'empathie à la sympathie. On est avec, mais on n'est pas collé, ça
ne devient pas bizarre. C'est ce qui permet la transition aussi.
C'est ce qui permet la transition et donc ce qui permet le petit rayon de lumière aussi entre les deux. Parce que sinon, on risque de mourir nous-mêmes et il faut qu'on défasse ce lien-là qui peut être nocif.
On le voit souvent,
avec
les chercheurs qui travaillent sur les camps, qui travaillent sur des génocides, généralement parlant, ils n'arrivent, forcément ils le savent, hein. Et c'est théorique, tout cela est théorique. Ils savent bien qu'il faut faire la part des choses, qu'il y a l'empathie et la compassion. Mais en fait, c'est l'empathie qui gagne.
Ouais.
Et puis
et qui étouffe.
Et qui étouffe.
Ouais.
Et parfois, c'est vrai, oui, tue. En fait,
oui,
l'empathie finit par, par tuer.
Exactement.
Ou bien par, par pour ceux qui comprennent suffisamment tôt, ça les pousse à s'éloigner en fait de ce domaine qui les passionne, qui est une véritable cause à défendre. Mais
en tout cas, elle empêche de faire le chemin initialement prévu,
oui,
qui est celui, oui, de s'approcher le plus près possible de la,
oui,
souffrance de l'autre,
oui,
parce qu'elle écrase.
Elle écrase complètement.
Tout. Et c'est vrai
ça accable, ça accable.
Absolument.
C'est un poids.
C'est un poids
tellement lourd.
Mm-hmm.
Oui, oui.
Mm-hmm.
Oui, oui.
Et je suis d'accord avec toi, Louise, quand tu dis que c'est, au fond, c'est quelque chose de dangereux, qu'on a tendance, je pense, à tort, à présenter comme un sentiment assez noble. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, comme tu nous le proposes, c'est en réalité quelque chose de... Enfin, je veux dire qu'il n'est pas juste dans la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un dont on tente de s'approcher pour essayer de comprendre sa douleur.
Moi, j'ai envie de vous dire, Louise, que vous devriez envoyer votre trilogie à Boris Cyrulnik, parce que c'est lui qui a créé le concept de la résilience.
Oui.
Mm-hmm. Et il a eu ses parents qui sont morts, justement, en déportation.
Mm-hmm. Il l'a popularisé,
et,
plus exactement.
Et c'est,
il ne l'a pas inventé.
Oui,
hein,
oui. Enfin, bon, il l'a popularisé.
Oui.
Alors. Mais en tout cas, moi, ce que m'a dit Marcel Ruffaut, qui est un grand pédopsychiatre, c'est qu'il est ami de Boris Cyrulnik, et il m'a dit, Boris est la personne la moins toxique que je connaisse. Et je pense que si vous lui envoyez cette trilogie, il vous comprendra très bien, à mon avis, et peut-être qu'il aura aussi envie de communiquer avec vous. Et je pense que ça pourrait être intéressant.
Je garde la suggestion. Si vous avez son adresse.
Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions?
Je veux dire que c'est une...
Oui, oui, c'était magnifique.
Vous avez bien travaillé.
Merci. Oui, oui, c'est beaucoup.
Fait parler Louise et tu le fais bien parler. Moi, elle n'a pas besoin de sommeil. Tu as orienté et puis c'est beau d'y aller dans les zones. Et puis,
oui.
Tu lui as permis d'articuler tout ça, cette trilogie. Et votre complicité se sentait très bien.
Oui.
Et ça, sûrement que ça pouvait s'accompagner, Louise, hein, te permettre d'aller même plus loin dans ton discours, pas dans ton travail qui est déjà là. Mais vraiment, c'était très beau.
Très bien.
Comme je disais, c'est assez rare, les poètes en général ne savent pas trop parler de la voix, je trouve. Mais là, c'était...
Ouais. Mais je vous remercie, ben, Diane, Linda, Le Pen, et vous d'être là. C'est très rare qu'un écrivain a la chance d'avoir une heure pour parler de son travail, parce que souvent on fait une lecture, 3-4 minutes, on en parle
vraiment.
Oui. Et c'est très rare, c'est la première fois que je peux parler de mon travail, c'est ici, c'est avec vous. Je vous sentais attentif et attentive, je vous remercie beaucoup, c'est vraiment, c'est un cadeau pour moi.
C'est un cadeau pour nous.
Mais c'est un cadeau pour nous.
Nous avons beaucoup, beaucoup de chance. Un grand merci, Louise. Un grand merci, Diane. Merci à vous toutes, à vous tous.
Merci à vous.
Un grand merci au CFC, hein, qui soutient cette action. Le Centre français d'exploitation du droit de copie, c'est très important parce que c'est une institution qui soutient régulièrement les actions littéraires menées par le Pen Club français. Et je vous propose de poursuivre les échanges dans un cadre moins formel autour d'un verre.